En ce moment, nous vivons le plus haut historique sur les cours de l'or, au-dessus de 2 150 $ l'once. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes censés vivre une période monétairement stable. Le bilan de la Banque Centrale Américaine est en réduction, ce qui signifie que la Fed retire des dollars du marché. C'est positif pour le dollar. Alors certes, le bilan de la Fed est toujours sensiblement au-dessus de ce qu'il était même après la crise des mesures anti-Covid, mais tout de même, l'orientation est à une réduction de son bilan, c'est indéniable. Le taux d'intérêt directeur de la Fed est supérieur à l'inflation, ce qui signifie que posséder du cash à court terme est rentable, et normalement, dans ce cas, les prix de l'or baissent puisque l'or ne rapporte aucun taux d'intérêt. Enfin, la croissance américaine a battu les pronostics et s'est montrée plus forte que prévu en 2023. Alors pourquoi diable l'or n'est pas content et décide de monter alors que les signes sur le dollar sont censés être bons? Et oui, comme le dit Luke Grumman, à juste titre, quand l'or monte alors que vos taux d'intérêt sont positifs, ce qui signifie que le dollar gagne en valeur, alors monsieur le marché est en train de vous expliquer qu'il n'y croit pas, que votre dette est en train de monter et que vous n'allez pas échapper à ce que Keynes appelait une trappe à dette. Autre phénomène qui doit vous questionner. Comment se fait-il que les volumes des ETF sur l'or, donc l'or papier, se détachent des cours de l'or? Dit autrement, si ce ne sont pas les tuyaux de la finance traditionnelle qui font monter le prix de l'or, qui sont les acheteurs?
C'est compliqué, mais c'est compliqué!
Ah, ça fait beaucoup de questions, alors commençons par rappeler les bases. L'or, c'est la monnaie en preuve de travail de l'économie. Cela signifie que l'or est la convention humaine sur laquelle le monde entier est d'accord pour dire que c'est un étalon de valeur et un moyen de paiement en dernier recours. Lorsque les monnaies fiat comme le dollar ou l'euro sont bien gérées, alors elles surperforment l'or car les monnaies fiat capitalisent les gains de productivité de l'économie lorsqu'elles sont déposées dans leur banque centrale, au travers du taux directeur. Dans ce cas, l'or baisse car on peut dire qu'il est vendu pour les monnaies fiat puisqu'elles rapportent plus. Par contre, lors d'une récession économique, où l'on détruit de la valeur, ou alors lorsque la monnaie se débase, donc lorsqu'elle est mal gérée, ou alors lorsqu'un État rentre dans une trappe à dette, bref, lorsqu'il y a du rififi monétaire, les monnaies fiat détruisent de la valeur et dans ce cas, on achète de l'or, car l'or conserve la valeur. Et c'est ainsi que l'on obtient un système monétaire bien arbitré dans lequel, au bout du compte et sur le long terme, les monnaies fiat et l'or ont le même rendement. Si, si, regardez. Sur 110 ans, l'or et les dollars déposés à court terme à la Fed arrivent à la même rentabilité. Et c'est bien normal puisque les marchés arbitrent la valeur entre les deux. Par contre, il y a beaucoup de volatilité et les écarts de marché entre l'or et les monnaies fiat nous en apprennent beaucoup sur ce que pense monsieur le marché. Donc, premier constat, si l'or monte en dollars alors que tout est censé aller bien, c'est que non, de façon implacable, quelque chose ne va pas bien. Rappelons deux choses fondamentales. La première, c'est que les USA ont certes une belle croissance et de l'énergie avec laquelle ils peuvent alimenter leur croissance et réindustrialiser leur pays par la même occasion, on a déjà parlé de tout ça. Mais il n'en reste pas moins que sur le plan des finances publiques, c'est juste une catastrophe. Les déficits sont partout et le coût de la dette explose avec la hausse des taux d'intérêt au fur et à mesure que la dette est roulée. Rouler sa dette signifie qu'au moment où il faut rembourser le prêt, vous refaites un prêt. L'objectif pour un État est de ne supporter que la charge des intérêts sans jamais rembourser le principal. Tant que ça marche, c'est-à-dire tant que la croissance est supérieure aux intérêts de la dette, ça se passe bien. Par contre, quand structurellement votre croissance est inférieure aux intérêts que vous devez payer, vous entrez dans une trappe à dette, à savoir que vous devenez structurellement insolvable, incapable de rembourser. Et là, c'est la déroute, la faillite, la banqueroute.
Ah !
Alors en matière de banqueroute des États, il y a plein de modalités pour faire défaut sur une dette en fonction des personnes avec lesquelles vous choisissez de vous fâcher. Mais globalement, dévaluation monétaire, à savoir une baisse du taux de change, inflation provoquée, saisie du patrimoine ou autres impôts exceptionnels, ce sont tous des formes de défaut de paiement. Pour en revenir à notre trappe à dette, et pour la quantifier proprement, il faut savoir combien on doit payer par an d'intérêt et mettre ce chiffre en rapport avec la croissance du PIB. Alors allons-y, car Charles Gave a déjà fait le travail pour nous. Service de la dette aux USA, 1000 milliards par an en ce moment. Service de la dette des sociétés industrielles, et pas des autres car l'industrie est un vecteur de la croissance fondamentale d'un pays. Elle est donc financée différemment. 1000 milliards de plus. Et enfin, déficit du budget américain, que Charles évalue en moyenne en ce moment à 1400 milliards par an. Au final, 3500 milliards, ça nous fait dans les 10% du PIB. Alors oui, c'est gros et moche, car habituellement, on a eu ce genre de trou dans les périodes de crise et non pas en période de croissance stable et dynamique. L'une des explications que je vois, c'est que notre fameux Ursus Magnus, que Charles et Didier avaient annoncé en 2022, n'a pas eu lieu car ce sont les États qui ont pris la foudre avec un krach retentissant sur les marchés obligataires. Le problème, c'est que ce krach obligataire est passé assez inaperçu car la Fed et la BCE, qui sont dans le même bateau, ont choisi de casser le thermomètre. C'est tout le sujet de la crise des banques régionales notamment. Pour vous la refaire en version très courte, avec la remontée des taux d'intérêt, l'épargne de long terme des Américains, mais aussi des Européens, était moins rémunérée que l'épargne de court terme. Donc logiquement, dans ce cas, en tant qu'épargnant, vous sortez votre argent des produits financiers de la banque à 2% et vous allez les mettre dans des fonds de trésorerie de votre banque centrale à 4%. Mais là, votre banque se retrouve obligée de vendre les obligations américaines à 10 ans qu'elle avait achetées pour vous sur le marché, avec une décote de 30%. Et c'est la faillite pour le système bancaire. Devant ce problème, la Fed a donc déclaré qu'elle cassait le marché obligataire en rachetant à sa valeur nominale, et non pas à sa valeur de marché, les obligations que les banques se retrouvaient obligées de vendre. C'est donc le citoyen américain qui a payé une assurance gratuite aux banques afin d'éviter la faillite. Cela peut paraître anodin pour de nombreuses personnes, car lorsqu'une banque centrale offre une assurance gratuite à une banque, on peut avoir la sensation que ça ne coûte rien car personne ne sort d'argent. Mais en réalité, cela signifie que vous avez supprimé le risque sur le marché obligataire et que l'aléa moral va venir corrompre votre système financier à grande vitesse. Et cela n'a pas manqué de se produire car les épargnants, comprenant que ce sont surtout les plus grosses banques qui avaient droit à ce traitement de faveur, ont massivement retiré leur épargne des banques régionales pour la placer chez les plus grosses banques comme JP Morgan par exemple. Au final, on recommence à voir des banques faire faillite. Mais on assiste également à un grand nombre de rachats de banques régionales par les plus grosses banques. Alors vous me direz que la concentration du système bancaire était déjà en cours depuis les années 80. Certes, mais c'était quand même pas la peine d'accélérer le mouvement, car le propre d'une industrie bancaire de qualité, c'est d'être proche du terrain pour que les financements bancaires soient attribués de la façon la plus qualitative possible. Et pour cela, il faut connaître ses clients, il faut connaître son secteur, bref, il faut être local. Au final et à ce jour, le coût du krach obligataire se traduit par une diminution de la qualité du système bancaire, qui est de plus en plus adapté pour les multinationales et de moins en moins pour les PME. Et bien évidemment, la valorisation des banques régionales se casse la figure. Tout cela pour dire que les problèmes de dette des USA n'est pas insoluble, car ils ont de l'énergie et de plus en plus d'usines. Mais en même temps, on peut s'attendre à des chocs économiques et monétaires d'anthologie en cas de crise économique. Pourquoi plus qu'auparavant ? Car les injections monétaires, c'est comme la drogue. Au début, c'est très cool, mais plus on en prend, moins ça marche et plus les effets délétères prennent le relais. Concrètement, veuillez considérer ce graphique. Vous pouvez constater que plus il y a de dettes, moins les stimulations budgétaires et monétaires fonctionnent. C'est comme cela qu'on en arrive à des niveaux de déficit en période normale qui sont équivalentes à des niveaux de temps de crise. Or, si aujourd'hui les USA ont un besoin de financement de leur économie de 10% du PIB en période de croissance, que va-t-il se passer en période de crise, où par définition, on pourrait atteindre des besoins en financement qu'il n'est plus possible d'assumer ? Si vous mesurez la progression du marché actions françaises en or, le constat est le même, le marché français n'a pas progressé d'un pouce depuis 2008. Le déficit français, entre ses recettes de l'ordre de 300 milliards et ses dépenses de l'ordre de 450 milliards, est tout de même de 50%. Rendez-vous compte, l'État et ses services dépensent 50% de plus que ce qu'ils ne rentrent en impôts.
Pas mal, non ? C'est français.
En faisant les mêmes calculs que pour les USA, la France en 2024 doit refinancer 270 milliards de dettes, soit environ 9% de son PIB. C'est juste dramatique pour une période de croissance supposée, car nous, on n'a pas d'énergie devant nous et les usines quittent le territoire. C'est pas la même ambiance du coup. Je pense que maintenant vous comprenez mieux pourquoi l'or monte alors que « tout va bien », entre guillemets. Quelles conséquences tirer de tout ça ? La première, c'est que les économies de l'Union européenne sont dans une situation critique, car financièrement et monétairement, c'est la cata. Et dans le même temps, les industriels et les riches sont en train de quitter les pays de l'Union européenne. Avec Data Factory, nous venons de lever 25 millions de dollars pour nos activités aux USA. Et le ticket d'entrée pour la partie equity, donc pour pouvoir acheter des actions chez nous, était de 500 000 dollars. On peut donc dire que ces gens qui ont acheté des actions chez nous sont plutôt riches que pauvres. Eh bien, une grande partie de ces personnes ne vivent plus en France. Ce sont bien des Gaulois très fiers d'être Gaulois, mais ils sont partis. Et attention, beaucoup d'entre eux ne sont pas partis il y a si longtemps que ça. Et ceux qui restent en France se posent souvent la question de partir même s'ils sont tiraillés par leur attachement. Gardez en tête que partir n'est pas quelque chose de facile. Et tendanciellement, ce mouvement s'accélère avec le temps. Les confinements ont provoqué une grande vague d'expatriation, c'est vrai, mais tendanciellement, on est quand même à la hausse. Comment je le sais ? Ah bah, c'est mon louchomètre personnel qui vous le dit. Je vois et parle à beaucoup de gens qui ont de l'argent et au final, je le ressens. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les structures collectives qui ont trinqué. La police, la justice, le système bancaire, l'école, et j'en passe pour absorber les chocs sans y faire face. Mais aujourd'hui, tous les Français en contact avec ces structures font le constat dans leur quotidien que ça craque de partout. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de plus à dire sur cette hausse de l'or. Ce graphique nous apprend que les achats d'or via les ETF, à savoir la finance traditionnelle occidentale pour faire simple, ont baissé, alors que dans le même temps, le prix de l'or est monté. On pense donc immédiatement à des achats en provenance de la Chine et des pays de l'Asie du Sud-Est par d'autres moyens que les ETF. Mais dans cet article du Financial Times, l'auteur explique que cette explication n'est pas satisfaisante car l'écart de prix entre l'or coté à Londres et la cotation de Shanghai est trop petite pour témoigner d'un tel écart de volume entre les deux continents. Ah oui, mais voilà, un tel constat signifie que l'information circule bien entre l'Est et l'Ouest. Or, depuis 2008, lorsque la Chine et les pays des BRICS, pour faire simple, ont compris que l'Occident n'était pas prêt à se laisser dépasser en termes de puissance et d'hégémonie, ces pays que l'on a appelés émergents ont entamé un vaste mouvement de dédollarisation du monde, en même temps qu'une régionalisation de la mondialisation. Dit autrement, ils ont commencé à faire leur vie de leur côté, à faire bande à part. Bien sûr, la crise des mesures anti-Covid et la guerre en Ukraine ont été des accélérateurs de cette séparation des continents. En conséquence de quoi ? On observe que la quantité d'informations économiques qui circulent entre ces blocs se réduit comme peau de chagrin avec le temps. En tout cas, comme le dit Charles Gave depuis des années, lorsque les prix de l'or dépassent la performance du marché obligataire américain, cela signifie que l'inflation n'est peut-être pas si vaincue que cela et que l'économie chinoise est en train de gagner du terrain. Et on le constate à plusieurs niveaux. Par exemple, en 2023, ce fut l'année où les pays articulés autour de l'influence chinoise ont exporté autant de richesses en Occident que dans les autres pays en développement. C'est une autre façon de dire qu'une partie du monde a largement décidé de faire sa vie de son côté. Nous vivons donc une époque de changement très intense et la situation de la France ne va pas vers le mieux. La guerre en Ukraine fait partie de ces facteurs qui accélèrent le déclin de l'Union européenne et de la France. Pour l'heure, il y a deux gagnants dans cette guerre. La Russie, qui a factuellement des conquêtes territoriales, quoi qu'on puisse en dire, et les USA, qui sont en train d'aspirer l'industrie de l'Union européenne. Pour mieux comprendre pourquoi la France est une des grandes perdantes de ce conflit, allez voir cette vidéo où je vous explique de quelle façon le gouvernement français est aveuglé par sa propre pensée magique, mais surtout de quelle façon votre épargne ou vous-même pourriez être engagé dans ce conflit.